Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Bloquer le pétrole et le gaz russe, les Américains sont passés à l'action sans attendre les Européens dont le plan est de réduire et pas se passer de l'énergie. Est-ce l'arme la plus forte face au Kremlin? Au bout de 13 jours de guerre en Ukraine, la population encerclée, piégée dans les grandes villes de l'Est et du Sud, 2 millions ont fui. L'accueil des réfugiés bloque à Calais en France, la moitié refoulée par les Britanniques. On vous dira tout aussi de ce symbole, le Z, que les pro-russes affichent désormais comme un emblème. Et en cette journée des droits des femmes, le quotidien de cette députée ukrainienne fusille à l'épaule. Dans l'actualité, encore le procès Deliveroo pour travail dissimulé, la suppression de la redevance audiovisuelle dans le débat présidentiel. Et puis, lundi prochain, on dira au revoir aux masques et aux jauges. Ce sera la fin du protocole sanitaire en entreprise. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, cette question, ce soir, sommes-nous prêts à avoir froid pour l'Ukraine? Parce que nous savons désormais que cette guerre sera longue et que les sanctions seront coûteuses, y compris pour nous en France. Est-ce que vous êtes inquiets de ça, vous qui bouclez difficilement vos fins de mois, vous qui êtes peut-être chef d'une petite entreprise? Est-ce que vous pensez à des solutions aussi qui permettraient à tout cela d'être plus simple pour tout le monde? Ça se passe au 01 45 24 7000. Et puis je vous le dis, jusqu'à 21h, et ça n'est pas incompatible, nous parlerons de vos élans de solidarité, parce que vous le savez, nous serons juste avant le grand concert Unis pour l'Ukraine, en direct du studio 104 et l'Auditorium avec Radio France et France 2. Là aussi, des artistes invités et aussi vos questions si vous le souhaitez.
France Inter. 13 jours de guerre et déjà 2 millions de réfugiés auxquels ces derniers jours, l'Europe ouvre les bras. L'Union européenne leur a accordé une protection immédiate qui leur épargne tout dédale administratif, toute demande officielle d'asile pour obtenir des papiers. Mais il y a un endroit où ça bloque, c'est à la frontière entre la France et le Royaume-Uni, à Calais, parce que Londres, sortie de l'Union, réclame un visa et refoule la moitié des 625 Ukrainiens arrivés ces derniers jours. Un manque d'humanité pour le ministre français de l'Intérieur. Rémi Brancato, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur place où les élus et la population tentent de gérer la situation et d'aider les réfugiés.
Oui, la mairie a fait ouvrir l'auberge de jeunesse pour 136 Ukrainiens hébergés gracieusement à l'abri des journalistes aujourd'hui. Et pour ceux qui ont les moyens, des hôteliers comme Delphine Roca, directrice de deux établissements à Calais, offrent des tarifs préférentiels.
On ne se pose même pas la question, hein. La réponse est forcément positive. Ils se présentent, il faut que ce soit des gens qui demandent le passeport britannique.
Des familles pourraient arriver bientôt dans ces chambres car le parcours est bloqué à Calais, explique la sous-préfète Véronique Després, pour ceux qui tentent de rejoindre leur famille au Royaume-Uni.
On a 306 personnes qui ont été à cette heure refoulées.
Le visa est un préalable pour embarquer sur un ferry ou emprunter le tunnel sous la Manche, mais les Britanniques ne le délivrent pas ici.
Elles peuvent se rendre très concrètement soit à Paris, soit à Bruxelles pour devoir demander leur visa. Et c'est bien là qu'est le problème, parce que ces personnes qui arrivent sur Calais, elles ont déjà fait des milliers de kilomètres. Ce sont des familles, il y a des enfants, elles ont vécu des situations dramatiques, épouvantables. La seule chose qu'elles demandent, c'est de pouvoir passer en Grande-Bretagne. Or, elles trouvent une équipe de l'UKBF, les douanes britannique, qui va leur dire demi-tour, vous n'avez pas de visa. Ça, on peut le comprendre. Ce qui est plus compliqué, c'est la procédure en elle-même.
Le Royaume-Uni annonce ce soir qu'un deuxième centre d'examen des visas doit ouvrir à Lille, plus près donc. En attendant, ni la mairie de Calais ni l'État ne confirment financer les nuitées des exilés ukrainiens.
Un reportage Rémi Brancato. Autour de 5000 Ukrainiens sont arrivés en France depuis le début de l'invasion. Plus de 3000 places d'hébergement proposées à ce stade par les collectivités, près de 6000 par des particuliers. Et le gouvernement a mis en place une plateforme « Je m'engage pour l'Ukraine » pour ceux qui voudraient aider.
Et puis, Hélène, sans attendre une éventuelle position commune avec les Européens, les États-Unis décident donc de se passer du pétrole et du gaz russe.
Un embargo annoncé tout à l'heure par le président américain Joe Biden.
We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.
Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe. Nous avons pris cette décision en étroite consultation avec nos alliés et nos partenaires du monde entier, en particulier en Europe. Parce qu'une réponse unie à l'agression de Poutine a été ma priorité absolue pour que l'OTAN, l'Union européenne et nos alliés restent totalement unis. Nous allons de l'avant, sachant que nombre de nos alliés et partenaires européens ne seront peut-être pas en mesure de se joindre à nous. Mais nous restons unis. Nous restons unis et notre objectif est de maintenir la pression sur Poutine et sa machine de guerre. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Poutine.
Joe Biden, traduit par Sébastien Paour, prêt à subir la hausse des cours mondiaux du pétrole et donc des prix à la pompe, qui suivra immanquablement cette annonce. Mais les États-Unis, premier producteur mondial, producteur de gaz aussi, ne sont pas dépendants comme les Européens de l'énergie russe. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Alors plutôt que de travailler sur un embargo de ce type, le plan de la Commission européenne ce soir à Bruxelles où vous vous trouvez, c'est de réduire fortement et au plus vite sa dépendance.
Oui, c'est un plan très ambitieux que propose aux États européens la Commission. Elle estime que l'on peut diminuer de 2/3 la consommation européenne de gaz russe avant la fin de l'année. Alors, en diversifiant d'abord nos fournisseurs, États-Unis, Qatar, Norvège, Algérie, qui peuvent nous en envoyer, en accélérant la production et l'importation de biométhane et d'hydrogène renouvelable, et puis, plus globalement, notre transition verte. Pour la commissaire à l'énergie, Kadri Simpson, il n'est plus concevable d'attendre parfois 7 ans, dit-elle, pour obtenir d'une administration un feu vert pour installer un parc d'éoliennes. Débarrassons-nous de cette dépendance à la vitesse de l'éclair, a insisté de son côté tout à l'heure le vice-président Frans Timmermans, en rappelant également le rôle de chacun.
Si on voit les quantités qui sont impliquées, c'est quand même par un petit changement de comportement. Collectivement, on peut avoir un impact énorme sur la consommation d'énergie. Donc, en changeant notre comportement en tant que citoyen, nous pouvons nous débarrasser en partie de la dépendance de gaz russe.
Les Européens doivent se préparer à une interruption totale ou partielle des livraisons de gaz ou de pétrole, a aussi déclaré la commissaire à l'énergie, en faisant référence à d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de Moscou. Il n'y a pas d'inquiétude pour l'hiver actuel, insiste la commissaire, mais pour l'an prochain, où il faudra, dit-elle, des stocks remplis à au moins 90%. Elle invite enfin les États membres à renforcer leur soutien aux ménages et aux entreprises impactées par la hausse des prix et propose de redistribuer les bénéfices des entreprises énergétiques générés par la flambée des cours.
En direct de Bruxelles, tout cela sera encore discuté jeudi et vendredi à Versailles en France où les chefs d'État se retrouvent. Et au 13e jour de l'invasion, les Russes annoncent avoir ouvert de nouveaux couloirs humanitaires, mais à Mariupol, les Ukrainiens accusent Moscou d'avoir lancé une attaque en direction de ce convoi. 300 000 civils sont encore piégés dans la ville. Une petite fille de 6 ans est morte parce que restée coincée des heures sous les ruines de sa maison sans pouvoir boire une goutte. Histoire tragique parmi toutes les autres. À Tcherniv, au nord de Kiev, c'est une mine antipersonnelle qui a tué 3 adultes et blessé 3 enfants. Et à Irpin, grande banlieue de la capitale, des combats font toujours rage car c'est la porte d'entrée vers Kiev pour les Russes. Laurent Macchietti et Boris Loumagne sont sur place aux côtés de civils qui tentent toujours de fuir.
Une forêt de pins, une rivière, un pont détruit, une planche en bois en travers du courant pour aider les réfugiés à traverser, à quitter Irpin, leur ville défigurée.
Il y a des tirs partout dans la ville. Il n'y a plus de gaz, plus d'électricité, c'est très dangereux.
Svetlana traîne sa petite valise sur la route enneigée.
Mon mari a vu beaucoup de civils tués dans la rue.
Et tandis que les tirs d'artillerie résonnent de part et d'autre de la rivière, la mère de Svetlana, Valentina, nous explique à quoi ressemble sa ville désormais.
Presque toutes les maisons de notre quartier sont détruites, alors on a pris seulement quelques affaires et on est parti.
Des policiers et des militaires tentent de maîtriser le flux de réfugiés. De vieilles personnes impotentes peinent à escalader le talus. Des ambulances démarrent en trombe. Dans la cohue, une petite femme énergique marche plus vite que tout le monde. Elle s'appelle Vera, elle a 69 ans.
Je ne voulais pas partir parce que je ne voulais pas laisser mon chat. Mais bon, j'ai demandé à la voisine de me le garder. Et là, je vais à Lviv pour retrouver mon fils et sa femme.
Vera sourit comme si elle allait retrouver son fils, juste là dans la forêt de pins. Pourtant, Lviv, c'est encore loin, à l'autre bout du pays.
Reportage Boris Loumagne. Et de cette guerre, il est extrêmement difficile de donner un bilan des victimes. Les Nations Unies estiment à près de 500 le nombre de civils tués depuis le début de l'invasion, tout en reconnaissant que c'est sûrement beaucoup plus. Quant aux pertes russes, Moscou n'a donné qu'un chiffre la semaine dernière, 491 soldats tués, tandis que l'Ukraine, elle, en revendique plus de 11 000, dont un chef d'état-major, Vitali Gerasimov. Aujourd'hui, impossible encore à vérifier, le Pentagone estime de son côté qu'entre 2 et 4 000 soldats soldats russes sont morts. Symbole aussi de la communication de la guerre. Cette lettre que l'on a vue apparaître ces derniers jours sur certains chars russes. Un Z peint en blanc. Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir.
Qui semble devenu l'emblème de la propagande russe.
Et cette lettre Z s'affiche partout, en tout cas chez ceux qui veulent afficher leur soutien aux soldats russes entrés en Ukraine. Ça peut se faire de façon très improvisée avec du scotch blanc sur le pare-brise des taxis moscovites ou encore avec de la peinture sur la carrosserie de camions poubelles, des camions soigneusement alignés pour les besoins d'une vidéo telle des blindés partant en opération. Le moindre tournage de propagande est soigné. Il s'agit de saturer les réseaux sociaux et limiter ainsi la diffusion d'images de guerre dans la population. Pour ça, la jeunesse pro-Poutine est mise à contribution dans des clips où plusieurs centaines de personnes portent le même t-shirt noir frappé d'un large Z blanc. Et les sportifs aussi s'approprient le symbole. Ce week-end, c'est un gymnaste russe qui monte sur le podium de la Coupe du Monde à Doha. Classé troisième, il arbore fièrement ce Z sur son torse et s'installe à côté du vainqueur ukrainien qui l'ignore sobrement. Mais cela n'a pas échappé à la Fédération internationale. Elle a ouvert une enquête disciplinaire à son encontre car elle n'a pas apprécié le zèle de ce gymnaste.
Jean-Sébastien Soldaini, merci à vous. Guerre de communication illustrée aussi par les médias qui cherchent la meilleure réponse à la nouvelle loi imposée par Moscou, jusqu'à 15 ans de prison pour ceux qui diffusent des informations considérées mensongères. Le New York Times décide de retirer ces journalistes de Russie, alors que la BBC a finalement décidé de faire marche arrière et renvoie les siens. Depuis ce matin, on vous raconte aussi la vie de cette députée ukrainienne, Lesia Vasilenko, 34 ans, restée à Kiev. Depuis 10 jours, comme tous les membres du Parlement, elle porte un fusil d'assaut à l'épaule et elle dort chaque nuit dans un endroit différent pour assurer sa sécurité. Elle raconte à Margot Karoff la difficulté de parler de cette guerre à ses trois enfants. Le plus petit est un bébé de 9 mois.
Depuis le début du conflit, Lesia Vasilenko a dû faire le même choix que des millions de parents ukrainiens.
On se sépare parce qu'on veut que nos enfants vivent.
Ses trois enfants sont à l'abri, loin d'elle, dans un endroit tenu secret.
Tous les sacrifices qu'on doit faire, on les voit comme une nécessité qui fait la différence entre la mort et la vie.
Grâce à Internet et au téléphone, elle arrive tout de même à garder un lien avec sa famille.
Déjà, les technologies nous permettent, même quand on est séparés, de tenir contact et ça fait du bien.
Cette parlementaire tient aussi à ce que ses enfants la voient comme une combattante, une guerrière.
Les Ukrainiennes, c'est vraiment des femmes amazones. Vous savez, ils ont beaucoup, beaucoup de courage.
Et comme toutes les mamans du monde, quelles que soient les circonstances, elle tient au rituel du coucher pour apaiser ses enfants avant de dormir.
Ça fait du bien de leur raconter quelque chose, d'avoir la possibilité de leur dire « je t'aime » et « bonne nuit » même parfois.
Ça fait 12 nuits qu'elle ne les a pas serrés dans ses bras.
Les faits marquants de cette 13e journée de guerre sont à retrouver comme chaque jour sur franceinter.fr et désormais en plus dans le podcast mis en onde par Grégory Philips avec les reportages de nos envoyés spéciaux sur l'appli Radio France. Et après le portrait de cette députée ukrainienne combattante que l'on vient d'entendre en cette journée des droits des femmes, allons en Chine qui a décidé de s'attaquer à la délicate question des trafics de femmes et des mariages forcés dans les campagnes. Plusieurs propositions sont étudiées cette semaine par l'Assemblée nationale populaire de Chine. Et ce qui a fini par faire réagir les autorités, c'est le sort d'une mère de famille enchaînée par son mari. Correspondance à Pékin, Sébastien Berriot.
Voilà ce que les internautes chinois ont découvert avec stupeur en janvier dans une série de vidéos.
Je suis comme une pute toute la journée ici. Le monde m'abandonne.
La vidéo de cette mère de famille enchaînée à un mur par son mari dans une ferme de la province du Jiangsu a bouleversé la Chine. Jusqu'ici, le régime fermait les yeux sur ces trafics de femmes qui permettent de faire face au manque d'épouses dans les campagnes. Mais la souffrance de cette mère avec ses 8 enfants a suscité une telle vague d'émotions que les autorités ont été contraintes de réagir. Plusieurs députés ont déposé des propositions examinées cette semaine. C'est le cas de Ruan Qi, vice-présidente de la Fédération des femmes de Shanghai.
Nous voulons un plan de lutte contre le trafic de femmes qui soit une déclaration de guerre de la société civilisée contre ces actes barbares. Il faut des peines de prison pour ceux qui vendent ces femmes, mais aussi pour ceux qui les achètent.
La députée de la province du Jilin, Jiang Baoyan, propose elle des peines plus lourdes.
Je suggère d'assimiler ça à un crime d'enlèvement et de kidnapping. Les personnes impliquées devraient être condamnées à des peines allant de 10 ans à la peine de mort.
Le ministre ministère chinois de la sécurité publique a lancé le 1er mars une campagne de 10 mois pour recenser et identifier les femmes victimes de trafic. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi en bref des pluies diluviennes en Australie et des inondations qui ont fait au moins 20 morts. Et puis, aux États-Unis, la ville de Los Angeles attaque le géant chimique Monsanto en justice, l'accusant d'avoir sciemment pollué ses eaux pendant des décennies. Tandis qu'en France, c'est un procès contre un modèle, celui de l'ubérisation du travail. Les plateformes de livraison de repas illustrent particulièrement le phénomène. Et pour la première fois en France, une entreprise est poursuivie au pénal pour travail dissimulé. Deliveroo, l'ancien directeur général et trois managers. Procès que vous suivez, Emmanuel Leclerc. Et l'audience a démarré avec l'audition des premiers témoins, dont cet ex-livreur soutient de l'entreprise.
Étudiant en podologie à l'époque des faits, cet ancien livreur Deliveroo n'a que des bons souvenirs. On connaissait l'employé du mois chez McDonald's, là c'est l'employé du siècle. Il a travaillé, dit-il, jusqu'à 69 heures par semaine, le soir du lundi au vendredi et le week-end, tranche du matin et les soirées avec un bonus de 50 euros. J'allais quand même en cours de 9h à 18h, poursuit-il. Lui avait son scooter personnel, pas un vélo comme la grande majorité des livreurs. Je gagnais près de 3500 euros, bien mieux que tous les jobs étudiants équivalents, bien moins fatigants. Je n'avais pas de relation de dépendance à mon employeur, je cliquais sur mon smartphone les tranches horaires qui m'arrangeaient. Je n'ai jamais eu de message de pression. On ne l'a pas rappelé, par exemple, sur ses vacances, pourtant non rémunérées, mais jugées trop longues, comme l'a confié un autre livreur. Au contraire, j'ai même renégocié au bluff mon tarif à la course de 3 à 4 euros, en plus des 7 euros de l'heure, en leur disant que sinon je partais chez Uber. Ils ont accepté sans discuter. Au bout d'une demi-heure, la présidente du tribunal propose de faire une pause. Non, non, ça va, vous êtes décidément très endurant, rétorque la magistrate avec un léger sourire à l'ex-employé modèle de Deliveroo. Au tribunal judiciaire de Paris, Emmanuel Leclerc, France Inter.
Plus d'une centaine d'anciens livreurs se sont portés partie civile dans ce procès. Un plan de contrôle encore loin du compte pour les syndicats, c'est les suites du scandale Orpea. Le gouvernement annonce que 7500 EHPAD seront visités et contrôlés dans les deux ans qui viennent pour prévenir les maltraitances. 150 agents recrutés. La CGT parle de mesurettes.
Et puis à 19h10, la redevance audiovisuelle fait son irruption dans la campagne présidentielle.
Sa suppression est la première proposition qu'Emmanuel Macron a choisi de mettre en avant hier soir pour son premier déplacement de candidat. Équation à plus de 3 milliards d'euros. Pouvoir d'achat rendu aux Français, mais questions sur le financement futur et les garanties d'indépendance du service public. Et sur le sujet, bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir.
Pour les candidats à la présidentielle, c'est le retour du clivage droite-gauche.
Et oui Hélène, d'un côté on trouve le premier bloc, Emmanuel Macron, qui en a fait la mesure de son entrée en campagne, quitte à s'aligner sur Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen, quatre candidats favorables à la suppression, mais deux d'entre eux, Zemmour et Le Pen, partisans d'aller encore plus loin, privatisation de France Inter et France 2 pour le premier, de tout le service public audiovisuel pour la seconde. De l'autre, les candidats de gauche, Mélenchon, Jadot, Roussel, Hidalgo, tous opposés à cette suppression qu'ils qualifient de démagogique pour redonner du pouvoir d'achat, argument d'Emmanuel Macron hier soir. Il y a d'autres mécanismes, insiste-t-on, dans les équipes. Pour l'insoumis, l'écologiste et le communiste, pas touche à la redevance, assurance vie d'une indépendance des médias publics du pouvoir politique. Petite nuance, dans le programme d'Anne Hidalgo, la socialiste estime qu'il y a un problème avec un dispositif adossé à la détention d'un téléviseur. Elle propose donc de faire payer la redevance à tous les contribuables. Car si de moins en moins de Français ont la télé, c'est vrai, tout le monde ou presque a la possibilité, via son smartphone, de la regarder et d'écouter la radio.
Anne Souhaitemont, et à 33 jours du premier tour encore, Éric Zemmour accusé de comportement inapproprié et d'agression sexuelle par 8 femmes sur le site d'information Mediapart. Le candidat d'extrême droite répond qu'il recycle des témoignages pour en faire un coût. Et puis, les déclarations des biens et participation des candidats dévoilées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. En ligne donc, 1,5 million d'euros de patrimoine pour Emmanuel Macron, 1,2 million pour Marine Le Pen, 9,7 million pour Valérie Pécresse. En a-t-on vraiment fini avec le Covid ? On lève le masque et le pass et même le protocole sanitaire en entreprise la semaine prochaine. Mais depuis quelques jours, il y a ce petit signal de contamination qui ne baisse plus. Le phénomène est assez net dans les départements où les enfants ont repris l'école il y a 2 semaines. Mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, se veut rassurant.
À ce stade, rien ne remet en question l'allègement qui est programmé pour le 14 mars. D'abord, la charge hospitalière liée au Covid continue de baisser. On est à peu près 2000 patients en soins intensifs, désormais un soin critique dans notre pays en raison du Covid. D'autre part, la forte réduction de l'épidémie a donné lieu effectivement à un tassement depuis quelques jours, ce qu'on constate dans toute l'Europe occidentale, donc c'est pas un sujet français. On le constate d'autant plus fortement dans les territoires dans lesquels la rentrée scolaire a eu lieu le plus tôt, et donc ça concerne surtout une classe d'âge qui n'est pas sujette à faire des formes graves ou des formes symptomatiques. On reste évidemment, comme nous le sommes depuis 2 ans, vigilants, mobiles, avec des décisions qui sont proportionnées à la situation sanitaire au moment où nous prenons ces décisions.
Voilà, Olivier Véran. Et donc l'annonce du jour, c'est la levée du protocole en entreprise lundi prochain. En plus du masque que l'on pourra retirer ou pas, on n'est pas obligé, hein. Les jauges seront levées, la cantine forcément un peu plus conviviale. Pas sûr qu'on passe du tout au tout dans toutes les entreprises, mais on pourra au moins fêter dignement les naissances et les départs en retraite.
Eh ben formidable, merci beaucoup Hélène Filly. On se retrouve évidemment demain. Nous, on reste ensemble encore pendant 2 heures. D'abord à partir de 19h20, cette question pour votre réflexion, êtes-vous prêt à avoir froid pour l'Ukraine? Les sanctions, évidemment, elles ont aussi un impact sur nous. Nous le savons, est-ce qu'il y a des solutions aussi qui nous permettront d'éviter tout cela ou en tout cas d'amoindrir? Et puis à partir de 20h, avant le concert Unis pour l'Ukraine, ça n'est pas incompatible, c'est de vos solidarités dont on va parler, vos élans, vos initiatives. Vous pourrez aussi dialoguer avec certains des artistes qui monteront de quelques étages et qui viendront nous voir. Voilà, un œil sur le ciel avant tout cela.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Elodie Calac, plus doux demain le temps?
Oui, ça se radoucit en effet. Alors les gelées demain matin se limiteront aux régions de l'Est et sur le Massif central. L'après-midi, il fera 12 degrés à Brest, 15 à Lille, Paris et Mulhouse, 16 au Mans, à Clermont-Ferrand, à Grenoble ou à Marseille, 17 à Bourges et 18 pour Bordeaux, Montauban et Perpignan.
Et sinon, le soleil y grâce se réfugie à l'Est?
Oui, du Grand Est à la région PACA et en Corse. Près des Pyrénées, du soleil aussi dès le matin. Il sera parfois voilé l'après-midi. Il gagnera l'ensemble du sud-ouest où le début de journée sera bien gris. Sur le Languedoc, sur le sud du Massif central, là ce sera encombré et parfois humide. Et puis ailleurs, il faudra composer avec les nuages bas assez nombreux, surtout sur l'ouest. L'après-midi, ce sera nuageux avec des éclaircies trop timides entre le nord-ouest et le Limousin. Plus belle du nord de la Seine vers la région parisienne et le nord de l'Auvergne. Et puis on a une nouvelle perturbation pluvieuse qui gagnera la Bretagne l'après-midi avec un vent de sud jusqu'à 70 km à l'heure.
Et merci beaucoup Elodie Calac de Météo France.